VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'écoute de cette édition du 29 janvier 2016. Avec vous, Nathalie Barge et Eric Manirakiza.
À la une ce soir, plus de 10 morts, de nombreux blessés dans un nouvel attentat dans le nord-est du Nigeria.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se dit très alarmé par de nouvelles allégations de viol sur des enfants en Centrafrique par des soldats de forces étrangères.
Devant deux envoyés spéciaux du quotidien français Le Monde, Jean-Philippe Rémy et Phil Moore, arrêtés hier au Burundi, ont été libérés aujourd'hui sans inculpation.
Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la CPI hier. L'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables.
Ouverture du sommet de l'Union africaine demain. La crise au Burundi fera l'objet d'une attention particulière des chefs d'État.
Le sommet qui commence demain des chefs d'État prenne la décision sans équivoque en faveur donc du projet Maprobu, une force pour la protection de la population et pour le désarmement des milices Imbonerakure, les milices du pouvoir.
Léonard Nyangoma, chef de l'opposition burundaise.
Et en RDC, annonce du lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février.
Début des pourparlers à Genève sur la crise syrienne.
Et ici aux États-Unis, ultime débat hier soir des primaires républicaines avant le vote de l'Iowa lundi. Un débat boycotté par Donald Trump.
Au Nigeria, plus de 10 personnes ont été tuées, plusieurs blessées ce vendredi dans un attentat suicide commis par un garçon sur un marché à Gombe, dans l'état d'Adamawa, rapporte l'AFP, citant des témoins. Le marché a été bouclé, les marchands sont rentrés chez eux après l'attaque, a précisé Adamu Ahmad, un responsable de la sécurité du site, affirma que le garçon chargé d'explosifs devait avoir 12 ans.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré ce vendredi être très alarmé par de nouvelles allégations de violences sexuelles sur des mineurs en Centrafrique par des membres des forces militaires étrangères. Les crimes présumés ont principalement eu lieu en 2014, mais n'ont été découverts que ces dernières semaines. Maëlys Hegel vous en dit plus.
C'est lors d'une interview de plusieurs filles que l'équipe de l'ONU a découvert qu'elles auraient été abusées sexuellement. Selon quatre de ces filles, âgées de 14 à 16 ans, leurs agresseurs appartenaient à des contingents de l'Union européenne. Trois d'entre elles ont déclaré qu'elles pensaient que leurs agresseurs faisaient partie du contingent géorgien de l'Euphore. Le ministère de la Défense de Géorgie a affirmé faire tout son possible pour trouver les responsables de ces crimes. L'équipe des Nations Unies a également interviewé une sœur et un frère de 7 et 9 ans qui avaient été abusés en 2014 par des militaires de la mission française en RCA. La fillette a déclaré avoir pratiqué des actes sexuels par voie orale sur des soldats français en échange d'une bouteille d'eau et d'un sachet de biscuits. Ces 6 allégations ont eu lieu dans les environs du camp de déplacés internes de Mpoko, situé près de l'aéroport de Bangui. Selon un porte-parole du Haut Commissariat, en 2014, il y a eu plus de 2500 cas de violences sexuelles et viols dénoncés.
À ce propos, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a saisi la justice après de nouvelles allégations, donc ces allégations de violences sexuelles sur mineurs impliquant des soldats français en Centrafrique, a-t-on annoncé vendredi dans son entourage. Il a saisi les autorités judiciaires françaises dès qu'il a pris connaissance des documents transmis le 19 janvier par le haut commissaire aux droits de l'homme.
Deux envoyés spéciaux du quotidien français Le Monde, le français Jean-Philippe Rémy et le britannique Phil Moore, arrêtés hier au Burundi avec, selon les autorités, des criminels armés, ont été libérés aujourd'hui sans inculpation après leur audition par le parquet, a annoncé l'ambassadeur de France à Bujumbura. Gerrit Van Rossum a dit que leur équipement professionnel ne leur avait pas été rendu dans l'immédiat. Christophe Nkurunziza nous donne des précisions.
Ils sont libres, ils sont en bonne santé. Il y a eu diverses personnalités françaises, britanniques, qui sont parties les voir dans les enceintes du Service national des renseignements. On les a dirigés vers le parquet, chez le procureur de la République. Ils ont été interrogés et après quelques minutes, ils ont été libres de leur mouvement.
Qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement ?
Le photographe Phil Moore était en train de prendre des photos à Nyakadiga, au centre de la capitale. Et quand il y a eu une équipe de la police qui est arrivée sur place, les quatre personnes qui étaient avec le photographe sont parties en courant. Et Phil Moore, lui aussi, il est parti en courant. Et directement, la police dit qu'il était en train d'interroger les insurgés. Et ils étaient en train de mener des enquêtes pour voir s'il n'était pas de mèche avec ces insurgés. Trois minutes après, il y a Jean-Philippe Rédy qui est arrivé sur place, cherchant son collègue. On l'a directement amené au service national de renseignement.
Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale à La Haye. Hier, à l'ouverture, l'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable. Plus de précisions avec Idriss Fall.
Les forces pro-Gbagbo ont tiré sur la foule provoquant la mort et des blessures physiques graves, a déclaré aujourd'hui Eric McDonald, représentant de la procureure Fatou Bensouda devant les trois juges de la CPI. Il a ajouté qu'ils ont été abattus simplement pour avoir soutenu Alassane Ouattara, montrant des séquences de vidéos d'attaques armées présumées des forces pro-Gbagbo contre des partisans de l'opposition. Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable hier à l'ouverture de leur procès. M. Gbagbo est le premier ancien chef d'État poursuivi par la CPI. Son procès pour crime contre l'humanité devrait durer entre 3 et 4 ans.
Un tribunal nigérien a refusé aujourd'hui d'accorder la liberté conditionnelle au militant indépendantiste Biafré, Namadi Kanu et deux autres prévenus accusés de trahison, décidant qu'ils devaient rester en détention jusqu'à leur procès, rapporte l'AFP. Kanu, arrêté en octobre, a plaidé non coupable la semaine dernière des accusations pour lesquelles il encourt une peine de prison à vie. Et le juge John Tsoho de la Haute Cour fédérale à Abuja a dit craindre que le militant, qui a la double nationalité nigériane et britannique, ne se présente pas devant le tribunal s'il était libéré sous caution. Le procès a été ajourné au 9 février.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les discussions sur la Syrie ont démarré aujourd'hui à Genève avec une rencontre entre l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, et la délégation du régime de Damas. Cette rencontre entre M. de Mistura et la délégation conduite par l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar al-Jafari, marque le début de pourparlers pour tenter de régler la crise syrienne. Mais les principaux groupes de l'opposition refusent pour l'instant de participer au processus.
En Arabie Saoudite, 4 personnes ont été tuées, 18 blessées dans une attaque suicide ce vendredi contre une mosquée chiite dans l'est du pays. Dernière attaque en date d'une série d'attentats visant la minorité religieuse du royaume. Deux assaillants ont attaqué la mosquée de l'imam Reza dans la ville d'Al-Sha à un moment de grenade affluent, à un moment de grande affluence plutôt pour la prière hebdomadaire du vendredi. L'un déclenchant ses explosifs et l'autre ouvrant le feu sur les fidèles qui ont réussi à le désarmer et le ligoter, rapporte l'AFP.
Ici aux États-Unis, hier a eu lieu l'ultime débat des primaires républicaines avant le vote de l'Iowa lundi. Le grand absent, c'était le milliardaire Donald Trump qui a fait le pari jeudi de boycotter l'événement. Bagassi Koura nous en dit plus.
Deux événements politiques concurrents ont eu lieu hier soir à quelques kilomètres de distance à Des Moines. Un débat républicain dans le centre de conférence entre 7 candidats aux primaires et un meeting de l'homme d'affaires Donald Trump organisé en 2 jours dans une salle bondée sur le campus de l'université Drake. Les candidats ont longuement débattu de sécurité nationale, de l'islam radical et de la stratégie militaire à adopter contre le groupe État islamique, chacun se présentant comme le plus capable de devenir commandant en chef. Le milliardaire Donald Trump a boudé, mais son ombre pesait sur ces débats, agacé par la partialité supposée de Fox News, la chaîne organisatrice, et de sa journaliste vedette Megyn Kelly. Il a annulé sa participation et promis de voler des téléspectateurs à la chaîne préférée des conservateurs. Quand on est maltraité, il faut savoir se défendre, a-t-il dit pour justifier son boycott du débat. Dans un communiqué, Donald Trump a ensuite annoncé que son événement avait permis de lever 5 millions de dollars en faveur de 22 associations pour anciens combattants et qu'il avait ajouté 1 million de sa propre poche.
Bagassi, Koura, les Pays-Bas vont participer aux frappes aériennes menées en Syrie contre le groupe État islamique, annoncé ce vendredi le gouvernement néerlandais en réponse à une demande de Washington et de Paris. Les récentes attaques terroristes à Paris, Istanbul et Jakarta mettent en évidence le fait que l'État islamique est un danger pour notre sécurité et notre manière de vivre, a affirmé le Premier ministre Mark Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Nathalie.
Le Premier ministre britannique a fait monter les enchères dans les négociations pour éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, estimant ce vendredi pas suffisant les progrès réalisés avant que les Européens ne mettent leurs propositions sur la table. « Nous avons fait des progrès aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Ça va être difficile », a déclaré David Cameron à la chaîne Sky News à l'issue d'un déjeuner de travail avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Anastasie Tudiech.
Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën investit dans la recherche automobile en Afrique. L'Open Lab, pôle de recherche et de développement, va voir le jour dans la capitale marocaine en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Les travaux de recherche se concentreront sur trois axes, la mobilité électrique, les énergies renouvelables et la gestion de la chaîne logistique. La croissance économique du Nigeria a atteint 3% pour 2015, le taux le plus faible depuis plus de 10 ans, selon un rapport du Fonds monétaire international. Alors que des pays pétroliers comme la Norvège ont anticipé les fluctuations des cours du brut, le Nigeria, rongé depuis de longues années par la corruption, est très dépendant des importations et a dû largement puiser dans ses réserves financières. Le pays a annoncé le mois dernier un budget record de 6 080 milliards de nairas. Le pays a annoncé le mois dernier un budget record de 6 080 milliards de nairas, environ 28 milliards d'euros pour 2016, afin de stimuler la croissance. Dans le cadre d'une vaste opération d'enquête ciblant le secteur financier menée par le gouvernement chinois, Citibank, un établissement financier chinois de taille moyenne, a été victime d'une fraude montée par des employés et qui pourrait lui coûter jusqu'à 135 millions d'euros. Selon Bloomberg News, un employé et plusieurs de ses collègues ont pu convaincre la banque d'émettre des titres financiers frauduleux qu'ils auraient ensuite revendus. Citibank a indiqué que la police a été saisie.
Merci Anastasie pour la Minute Éco.
Voilà votre page sportive de ce soir avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le handball, la CAN continue au Caire.
Oui, la demi-finale, c'est ce vendredi. Le Maghreb donc domine la compétition. Ce soir, on a Algérie-Tunisie. Et le second match, ce sera entre l'Égypte et l'Angola. À 19h, le vainqueur donc de la finale sera directement qualifié pour les Jeux olympiques de Rio, tandis que les trois premiers iront au Mondial 2017 en France.
Oui, et en football, le CHAN atteint les quarts de finale aussi.
Oui, la compétition se déroule au Rwanda, le pays des mille collines. Demain, samedi à Kigali, les Rwandais vont affronter les Léopards de la RDC. Le deuxième quart aura lieu le même jour entre les Lions du Cameroun et les Éléphants. Un choc en perspective. Dimanche à Kigali, la Tunisie croisera le fer avec le Mali, tandis que la Guinée jouera contre les Chipolopolo de Zambie.
Et mi-février, on va examiner les appels de Blatter et Platini.
Oui, la commission des recours de la Fédération internationale étudiera le 16 février l'appel de Joseph Blatter, suspendu 8 ans par la commission d'éthique de toute activité dans le football. Le passage de Blatter, président démissionnaire de la FIFA, depuis le 2 juin 2015 devant cette commission, aura lieu 24 heures après celui de Michel Platini.
Oui, tennis Open d'Australie, 5-7 et une cinquième finale pour Andy Murray.
Oui, Andy Murray s'est qualifié pour la cinquième finale de l'Open d'Australie en faisant plier l'homme en forme du début de saison, le Canadien Milos Raonic.
Merci Bagassi, on parlera de la NBA dans 30 minutes.
Alors merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge avec Eric Manirakiza, place au dossier du jour.
Le 26e sommet de l'Union africaine s'ouvre demain à Addis Abeba. Le Burundi fera l'objet d'une attention particulière des chefs d'État. L'Union africaine souhaite l'envoi d'une force militaire, mais Bujumbura rejette cette idée. Qu'est-ce que l'opposition attend de ce sommet? Idriss Fall a joint Léonard Nyangoma, président du Kenared, la coalition de l'opposition burundaise.
Le Sinared que je préside vient d'adresser au sommet de l'Union africaine et au secrétariat général des Nations Unies deux mémorandums qui décrivent en détail la tragédie, le calvaire que vit le peuple burundais. La tragédie a atteint son paroxysme avec les tueries massives faites par le régime de facto de Nkurunziza. Il est grand temps que nos frères africains se réveillent. Nkurunziza n'acceptera jamais les exhortations verbales. Il faudrait que l'Union africaine exerce de fortes pressions diplomatiques, économiques et financières qui comprendraient notamment un embargo sélectif sur les armes, les munitions et le jet des avoirs extérieurs des ténors du régime. Que l'Union africaine, enfin, décide de retirer les contingents des militaires burundais à mission de maintenir la paix et faire en sorte que le gouvernement burundais n'ait aucune retombée financière de ces missions. On ne peut pas prétendre maintenir la paix à l'extérieur quand chez vous c'est la sécurité généralisée. Alors, qui reviennent pour maintenir la paix au Burundi?
On ne vous entend pas parler de forces africaines qu'il faut envoyer au Burundi.
Oui. Nous attendons qu'en fait, effectivement, le sommet qui commence demain des chefs d'État prenne la décision sans équivoque en faveur donc du projet Maprobu, une force pour la protection de la population et pour le désarmement des milices Imbonerakure, les milices du pouvoir.
Bujumbura a déjà rejeté l'idée disant que ce sera une force d'occupation.
Si on coupe les vivres en Nkurunziza, s'il n'a plus les moyens de faire vivre sa clique et son oligarchie avec qui il partage le pouvoir par la force, je ne crois pas qu'il va résister à une décision du sommet de tous les chefs d'État de l'Union africaine, y compris les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Si on décrète un embargo sur le Burundi, comment est-ce qu'il pourra survivre? Si le Conseil de sécurité vote une résolution de renvoi de ses forces, comment est-ce qu'il pourra tenir? Et je crois que les Burundais aussi doivent comprendre, nous sommes d'abord les premiers responsables à nous occuper vraiment de Nkurunziza pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'obliger à venir à la table des négociations et peut-être l'aider à partir. Il a peur de partir, il a commis tellement de crimes humains et crimes économiques. Il pense que dès qu'il partira, il sera arrêté et jugé.
Léonard Nyangoma, chef de l'opposition burundaise, joint en France.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Deuxième jour du procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale à La Haye. Hier, à l'ouverture, l'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blé Goudé ont plaidé non coupable. Écoutez ce micro-trottoir de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Julien Anaki, qui a tendu donc son micro aux Ivoiriens pour connaître leur point de vue sur cette question.
Qu'il y ait un vrai jugement. Parce que tous nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et on connaît plus ou moins les acteurs de la crise ivoirienne et on sait ce qui était en place, comment la guerre est arrivée et voilà quoi. Donc ceux qui tiennent les ficelles de la CPI devront en tenir compte, logiquement, pour tirer des conclusions objectives.
On attend que ce procès vraiment soit équitable, afin que nous, les Ivoiriens, on puisse s'épanouir, puisque la réconciliation nationale de ce pays vraiment dépend aussi quelque part du procès de Laurent Gbagbo. On attend que la CPI vraiment puisse jouer son rôle en tant qu'un organisme neutre.
Je suis heureux que ce procès-là ait lieu, parce qu'enfin, on aura la vérité. Voilà, nous espérons que la vérité soit dite et qu'au sorti de cela, les responsabilités soient situées. Si M. Laurent Gbagbo est coupable de ce qu'on lui reproche, personne ne pleurera qu'il aille en prison. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on le relâche.
Pour la Côte d'Ivoire, je peux dire que ce procès-là pourrait quand même faire évoluer les choses si et seulement si ça se passe normalement. Parce que c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. Si les choses se passent normalement, je pense qu'on peut avoir une évolution dans ce que nous faisons, surtout la paix. C'est la paix que nous cherchons. Si ça se passe correctement, je pense qu'on pourrait retrouver la paix durable. Pour la justification, je peux dire oui, ça se justifie parce que du moment que la communauté internationale a jugé bon qu'il soit là-bas, ça se justifie. Parce que selon eux, sa présence à la haie pouvait quand même donner une explication, je peux dire un espoir à l'évolution de la Côte d'Ivoire.
M'inspire la paix, pourvu qu'il soit libéré. S'il est libéré, ça donne la paix au pays. Parce que ça fait au moins 5 ans qu'il est là-bas, c'est un Ivoirien après tout. Un Ivoirien qui est en prison, c'est toute la Côte d'Ivoire, j'allais dire, qui est en prison. Donc ça fait la paix pour nous.
Si la justice fait son travail, qu'il doit rester là-bas, bon, tout ça, c'est la justice qui va décider.
Pour la réconciliation, il faut que on le libère, ou bien soit les deux parties, on les juge. Moi, c'est ce que je pense. Parce que ce sont les deux. Ce n'est pas un camp de Gbagbo seulement qui a tué. Ce sont les deux camps qui se sont affrontés. Donc là, il faut que la justice se fasse.
Il y a des choses qu'on peut pardonner tout, parce que les choses, si on se pardonne, on peut avancer. Il peut y avoir la réconciliation entre les Ivoiriens. Parce que ça, la libération, la réconciliation, ce n'est pas bien. La division n'est pas bien. Parce que quand on se divise là, donc, l'autre là est de son côté, l'autre est de son côté, là on ne peut pas avancer. Ce pays est à nous tous. Parce que nous les étrangers, je suis étranger, voilà, les Ivoiriens sont là. Donc nous tous, les Afrique là c'est pour nous. Donc si aujourd'hui on dit que le Gbagbo est libéré, nous sera très très fiers.
Je souhaiterais qu'on interpelle les uns et les autres pour que eux aussi à leur tour soient entendus et que ce ne soit pas le camp Gbagbo seulement qui soit toujours opprimé, arrêté, et que ce soit vraiment une justice des justices et que ce soit vraiment équitable.
C'était des réactions d'Ivoiriens sur le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo au micro de Julien Anaki.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Kouamagana est l'une des plus grandes centrales solaires d'Afrique centrale. Elle est entrée en production l'année dernière au Rwanda avec des panneaux photovoltaïques déployés sur 21 hectares. Érigée dans l'est du pays, la centrale solaire a une production maximale de 8,5 MW, soit près de 5% de la capacité totale du réseau rwandais. Un reportage de Maurice Magorané, présenté par Salwa Jafari.
Le cadre, une véritable carte postale. Les fameuses collines vertes rwandaises entourent le site avec une vue imprenable sur le lac Mugesera, à 60 km à l'est de Kigali. Les 28 360 panneaux solaires sont disposés en rangées parfaites. De l'aube au crépuscule, les panneaux photovoltaïques contrôlés par ordinateur s'inclinent vers l'est, puis vers l'ouest, à la recherche des rayons solaires, ce qui les rend plus efficients à 20% comparé aux panneaux fixes. Toi, Guiri Mana, le directeur de la centrale, explique.
La centrale contribue à hauteur de 5% de la capacité nationale. Comme le Rwanda est toujours à la recherche d'autres sources d'énergie, la capacité va augmenter.
La centrale solaire de Rouyn-Magana a une capacité de 8,5 MW. Elle peut alimenter 15 000 foyers environ. Le coût, plus de 23 millions de dollars. Elle a été construite par la firme Afritech en un temps record, 6 mois. Étant donné l'instabilité de la production d'une centrale solaire, les autorités rwandaises ne vont utiliser que 10% de l'énergie solaire sur le réseau électrique national. Germaine Kamayre, secrétaire d'État en charge de l'eau et de l'énergie, parle des ambitions de son pays.
Nous avons des projections de produire bientôt 10 MW sur notre construction solaire qu'on prévoit avoir dans la partie est du pays, tout près de Rwimavu.
Même si le Rwanda n'est pas particulièrement ensoleillé, il a porté son choix sur l'énergie photovoltaïque en complément à d'autres ressources. Jean Bosco Mugeraneza, secrétaire exécutif de Rwanda Energy Group.
Les panneaux solaires ou l'énergie solaire va tout simplement résoudre les problèmes dans les milieux ruraux, dans les districts rwandais. Ça ne résout pas le problème pour les industries.
Évidemment, l'énergie produite par Rouyn-Magana reste insuffisante pour alimenter tout le territoire. Beaucoup de Rwandais, surtout dans les zones rurales, devront patienter avant d'être connectés au réseau électrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. On la termine en musique hein, avec Kassav qui chante la chanson Siwa. Et à la mise en onde donc de cette émission, c'était Michel Joseph. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos. 24 sur 24 en chantant bien sûr si haut. We'll be right back.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.